Main d'or
dans les Bartasses.
Très jeune, j'ai commencé à travailler avec mes mains.
Des artisans qui utilisent leur territoire pour concevoir.
J'ai récupéré beaucoup de bois, là j'ai beaucoup de bois qui ne me serviront jamais.
J'ai travaillé le bois, le métal, la céramique.
Une émission proposée par
Habitat Durable en Cévennes
et En Chemin.
Pour donner un motif qui soit récurrent, un peu géométrique, je vais le tremper dans un acide.
À écouter sur Radio Bartas.
Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais le faire autrement ou quoi que ce soit.
Pour cette émission, Florian, Milena, Tom et Anaïs sont partis en direction de Sainte-Croix-Vallée-Française chez Clémentine Lemaître, teinturière, aventurière, cueilleuse de plantes et couturière. Elle nous accueille dans son atelier pour nous présenter son entreprise Ingo Nature.
Le rêve de princesse ne m'a pas encore quittée. Et j'ai eu envie de faire une robe de princesse en soie. Donc c'est une robe longue avec un décolleté assez proche du cou, assez pudique. Mais dans le dos, elle a un très grand décolleté, un très grand dos nu qui est maintenu par des bretelles qui tiennent sur le bord de l'épaule. Et ce décolleté, ce dos nu, revient quasiment au niveau des hanches, presque sur le devant. Donc c'est très saillant dans le dos. Donc là, c'est un doupion de soie, qui a un tissage irrégulier. C'est le type de tissu qui est couramment utilisé pour les robes de mariée. Donc c'est ce qui donne le charme de cette robe. Elle est d'un vert d'eau très doux, qui est obtenu grâce aux fleurs du Coréopsis. Et les bretelles sont couleur prune, issues des racines de garance.
Comment est-ce que vous en êtes arrivée à devenir couturière, teinturière ?
La couture est une passion que j'ai depuis que je suis enfant. J'ai toujours cousu, en commençant par faire des robes pour mes poupées, ensuite pour mes copines. Et j'avais toujours dans l'idée de devenir styliste. J'ai fait des études au lycée de la Camargue pour devenir styliste. J'ai passé un bac art appliqué. Puis j'ai continué des études d'art à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Et là, j'ai pas du tout fait de couture. Je me suis essentiellement intéressée à la vidéo. J'ai fait des films. Et parallèlement à ce cursus-là, quand même, je me suis dit, la couture, ça me manque un petit peu. J'ai suivi des cours particuliers de couture et j'ai passé mon CAP en candidat libre pour le panache. Voilà. Et j'ai continué pendant plusieurs années à faire de la vidéo à Strasbourg, puis à Bristol et à Clermont-Ferrand. Et c'est à Clermont-Ferrand, en travaillant dans une association, qui m'ont dit « Ah, mais on est intéressé par vos cours de couture, est-ce que vous pourrez animer un atelier ?» Et j'ai renclenché le pas comme ça. Et comment j'en suis revenue au Cévennes, à ma terre natale, c'est grâce à Brigitte Longuevergne, qui était la mère d'un très bon ami. Au collège, souvent, j'allais dans son atelier travailler. Et donc, il y a à peu près 2 ans, elle m'a proposé qu'on travaille ensemble et qu'elle me transmette son savoir-faire, aussi bien en couture qu'en teinture. Et l'idée m'a séduite. J'ai quitté Clermont-Ferrand et je suis venue me réinstaller à côté de Saint-Étienne-Vallée-Française pour travailler avec elle et lancer ce projet qui est Ingo Nature. La démarche d'Ingo Nature, c'est de créer des vêtements chics et confortables qui respectent l'environnement et l'humain, aussi bien ceux qui font les vêtements que ceux qui les portent.
Et le nom, donc Ingo Nature, alors ça vient d'où ?
Avec l'indigo, non, c'est ça ?
Exactement, c'est la contraction d'indigo, parce que le projet est de développer le bleu des Cévennes, pas du fromage, de la couleur.
Est-ce que vous pourriez nous faire un petit descriptif de votre atelier ?
Alors, l'atelier est une pièce mansardée avec une jolie terrasse dehors qui nous permet de prendre le soleil l'été. Donc, il y a 5 machines à coudre, une piqueuse plate, deux quilteuses qui permettent de faire tous les points, comme les boutonnières, enfin tout ce qui est finition, et 2 surjeteuses. On a des suspentes pour les rouleaux de tissu, qui permettent de dérouler facilement le tissu. On travaille avec un peu plus d'une dizaine de tissus différents, donc voilà, lin-coton, des mélanges lin-coton, des mélanges lin-laine, et puis la soie.
D'où est-ce qu'elle provient,
la soie ou... Alors la soie, ben, malheureusement elle est pas cévenole parce que c'est trop difficile à faire revivre. Malheureusement, ça a bien été tenté dans les années 70, mais ça a été abandonné. Après en France, on trouve encore quelques tisserands qui tissent la soie. Malheureusement, le fil n'est plus produit en France pour diverses raisons. Ben, d'une part le prix de la main d'œuvre, mais aussi une forme de pollution, notamment dans la vallée du Rhône, le traitement des arbres fruitiers. Et ça perturbe le ver à soie. Le ver à soie est extrêmement sensible à la pollution. Et s'il est perturbé, il a tendance à ne plus tisser son cocon. Il meurt avant de tisser son cocon. Donc moi, la soie, je l'achète à Lyon. Et elle vient de Chine. Alors ça, on ne peut pas enlever la soie aux Chinois, ils ont plus de 3 millions de sériciculture, et ils la font très bien. Il y a 2 types de soie, il y a la soie sauvage, qui provient de vers à soie sauvage, qui peut être très belle d'ailleurs, qui a une texture assez régulière, et puis il y a la soie du Bombyx de Murier, celui qui était élevé en Lozère, et qui permet d'avoir un fil très long et très résistant, plus de 3 km. Et parfaitement blanc et uniforme, et c'est la plus répandue.
Vous avez des vêtements en coton aussi?
Alors, on a des cotons qui proviennent du sud de l'Inde, qui sont aussi tissés là-bas et qui sont issus de l'agriculture biologique. On a un lin d'Europe, donc cultivé dans le nord de la France et tissé en Allemagne, teint en Autriche, et qui revient en France. C'est peut-être En France, on a un petit peu perdu tous nos savoir-faire en matière de tissage et de textile, et c'est bien dommage, parce qu'il y avait vraiment un grand savoir-faire. C'est assez difficile quand même en textile biologique de s'approvisionner, de trouver du tissu de qualité.
Je me dis qu'il y a pas mal de chutes, non ?
Exact. Quand on fait des découpes, il y a énormément de petites chutes de tissu. Et c'est vrai que le tissu, c'est quelque chose de très précieux. Donc on garde toutes nos chutes, parce que souvent on a des idées. Et ça permet de recréer des vêtements, et notamment des accessoires. Avec les chutes, on crée, nous, des ceintures, des foulards, des bandeaux. Donc on les assemble selon la technique du patchwork.
On n'a pas parlé de la laine, elle vient d'où ?
Pour l'instant, j'ai pas énormément développé la teinture sur la laine. J'ai fait des expérimentations avec des écheveaux de laine et des pelotes de laine, donc vierges. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer pour les années qui vont venir. C'est vraiment me spécialiser en teinture végétale sur la laine et la soie, et peut-être progressivement utiliser un petit peu moins de lin, de coton, puisque j'ai plus de difficultés à l'éteindre, et vraiment accentuer sur ces deux matières qui ont des propriétés très, très intéressantes, hein, thermiques, de résistance, et l'idée ce serait aussi de redévelopper la filière laine en Lozère, quand même, sur toute la région de Villefort, Langogne, c'était quand même, il y avait des filatures importantes au niveau de la laine, dans les Cévennes, des filatures de soie, et peut-être recréer un lien et reconnecter tout ça.
Alors, parce que dans le travail que vous faites, il y a la partie couture, plantes, d'où est-ce qu'elles viennent ?
Toute l'originalité et aussi l'ambition du projet vient de là, c'est que les plantes, elles sont cévenoles. Donc je cultive avec mon compagnon les plantes tinctoriales ou je les cueille dans la nature. Beaucoup de plantes sont issues de la nature. Quasiment une plante sur trois est tinctoriale à l'état naturel. Moi, personnellement, dans la nature, je récolte surtout les écorces d'arbres, qui sont les écorces de châtaignier, d'aulne glutineux, de chêne vert. Donc, dans les écorces est contenu le tannin, qui est le principe qui donne la couleur.
Après, des plantes cultivées, du coup ?
En plantes cultivées, je cultive essentiellement l'indigo pour obtenir le bleu. Donc l'indigo, c'est un terme générique pour désigner les plantes qui donnent du bleu. Le nom latin, c'est le Polygonum tinctorium. Mais il pourrait aussi y avoir le pastel, l'indigo ferra. Il y a énormément de plantes qui donnent du bleu et moi, j'ai choisi plutôt le Polygonum.
C'est une plante qui se plaît bien ici dans les Cévennes. Sélectionner des variétés à un moment donné, comment ça se passe ?
Tout à fait, j'ai sélectionné cette variété. C'est une plante originaire d'Asie, qui est surtout très cultivée au Japon, dans des zones montagneuses, assez humides et chaudes, où le climat correspond, en fait, est très très proche à celui des Cévennes. Mmh. D'où mon choix du Polygonum, plus que par exemple le pastel, plutôt cultivé vraiment dans le sud de la France, qui préfère les sols calcaires et les climats chauds et arides. Donc le Polygonum était tout indiqué et on a vraiment des récoltes, des rendements à l'hectare qui sont très intéressants. I've been down that way with a dream on my arm. Yet me and my love, we could not stay. We heard voices of children and my little hands were led away. All the boughs bend for us, all the earth awaits thee. All the stones, they will cry. Just the same, the word that stands looks straight at every man from King Town.
Les plantes, je ne sais pas si vous pouvez les conserver, si elles gardent toujours leur fonction tinctoriale ou.
Oui, alors il y a la période des teintures, il y a la période des récoltes qui est importante. On peut utiliser donc les fleurs ou les écorces, c'est ce qu'on appelle le substrat. On peut l'utiliser sec ou frais. Donc par exemple l'été, j'utilise aussi par exemple les fleurs du cosmos sulfureux pour donner des oranges vifs. Donc l'été, ils arrivent à maturité entre juillet et août. Là, je les cueille tous les 3 jours et je les mets directement à fermenter dans la cuve. Mais souvent, j'ai bien plus de fleurs que pour une seule cuve. Donc, je les mets à sécher. Et au long de l'hiver, je peux rajouter des fleurs séchées au fur et à mesure dans ma cuve.
L'effet d'une fleur, il est identique quand elle est fraîche et quand elle est sèche?
Alors, j'ai fait des expérimentations. Elle est un petit peu plus forte quand elle est fraîche que quand elle est sèche, mais c'est assez équivalent. Par contre, si on garde les fleurs plusieurs années, par exemple si on fait une très grosse récolte une année et qu'on ne l'utilise pas durant la saison, c'est vrai que 2 à 3 ans plus tard, elle aura quand même perdu de son effet. Voilà. Plus vous mettrez de substrat par rapport à votre quantité d'eau, donc c'est une question de concentration, plus vous aurez des couleurs vives. Donc après, c'est à vous aussi, selon votre créativité, à créer des camaïeux, des dégradés de couleurs.
Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous ramassez les plantes? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un cheminement particulier ou...
Non, c'est très agréable et c'est fascinant de se dire que toutes les couleurs sont dans la nature. Et donc quasiment voilà, une plante sur 3 donne de la couleur, et au sein de ces plantes aussi on peut obtenir des nuances incroyables en fonction du sol dans lequel elle pousse. Elle va pomper des nutriments, des minéraux différents dans le sol qui vont se stocker dans les écorces, dans la sèvre, et ça va nuancer la couleur. Donc d'une vallée à l'autre, les plantes n'auront pas tout à fait les mêmes propriétés, les mêmes couleurs, et ça c'est fascinant. De même, l'eau de source, en fonction de sa composition chimique, va influencer sur la couleur. Chez Brigitte Longvergne, sa source est ferrugineuse, donc elle contient du fer, et c'est un nuanceur de couleur aussi. Ça va faire changer légèrement la couleur. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, au lieu d'ajouter du sulfate de fer en poudre pour faire varier la couleur, c'est une sorte de nuançage homéopathique. Et ça, on pourrait s'imaginer, en Lozère, aller chercher de l'eau avec à la source de Quézac pour le fer, par exemple, à la source de Burle pour le cuivre. C'est à réfléchir. Je ne me suis pas encore lancée dans ces expérimentations-là, mais le terrain d'expérimentation est immense et tout est à faire.
Au niveau du matériel, qu'est-ce que vous utilisez?
Au niveau des teintures, le matériel, du matériel d'agriculture. Donc pour les labours, il y a un tracteur. Il faut dire que je bénéficie, on va dire, de l'aide de mes parents, qui était horticulteur, et donc mon père a mis à disposition des terrains pour la culture des plantes tinctoriales et m'aide aussi dans les cultures, notamment en labourant les sols. Après, il faut de l'huile de coude et se baisser pour cueillir les fleurs ou ramasser les feuilles. C'est une récolte manuelle, oui, pour l'instant on n'a pas encore des surfaces suffisantes, et puis pour vraiment ne pas abîmer la fleur ou la feuille, la récolte manuelle est plus indiquée, je pense, qu'une récolte mécanique.
Comment vous avez appris comment utiliser ces plantes, en fait? J'imagine qu'il y a des techniques qui varient selon la plante. Et est-ce que vous avez suivi des formations ou est-ce que c'est en essayant un peu?
C'est Brigitte Longvergne qui m'a transmis ses savoir-faire, qu'elle détient elle-même d'une femme qui s'appelle Anne Rieger, qui est assez connue dans le milieu de la teinture végétale. Et j'expérimente aussi beaucoup. Il y a 2 techniques de teinture pour la teinture végétale, une dite par cuisson et une dite par fermentation. Celle par fermentation est beaucoup plus rare et moins connue. C'est celle que j'ai choisi d'utiliser parce que les Cévennes se prêtent aux conditions qu'elles requièrent, c'est-à-dire il faut de l'eau de source parfaitement pure. C'est vrai que dans la plupart des villes et des villages, l'eau est traitée. On a encore la chance ici dans les Cévennes d'avoir de l'eau de source. Il faut un pH acide que permet le sol cévenol, donc à peu près à 5,5. Alors que par cuisson, la différence, ben déjà on va cuire, on ne va pas faire fermenter. On utilise des mordants. Qui peuvent être d'origine naturelle, comme la pierre d'Alain. Alors, un mordant, c'est un produit, enfin un élément chimique issu de la chimie de synthèse ou de la chimie organique, qui permet de fixer la couleur dans le tissu. C'est ce qui va permettre l'accroche de la molécule.
Par fermentation, y a pas, enfin, on n'a pas besoin de ce mordant, en fait, finalement, c'est ça?
Exactement, il n'y a pas besoin de mordant par fermentation, et c'est tout l'intérêt, parce que même si l'Alain, qui est le mordant le plus usuel, qui est naturel, est utilisé et autorisé en teinture végétale et reconnu par l'agriculture biologique, ça reste quand même de l'aluminium. Et quand on travaille à petite échelle, que vous faites ça, on va dire, pour votre loisir, c'est pas un souci, mais nous on teint déjà des quantités de soie assez conséquentes, hein, plus de 300 mètres par an, donc on pourrait pas rejeter l'Alain comme ça dans la nature, ça modifierait les sols, on serait obligé de le faire retraiter. Donc la solution de travailler par fermentation était assez intéressante d'un point de vue écologique.
Du coup, j'imagine au niveau de l'énergie aussi, par rapport à la cuisson, il n'y a pas toute l'énergie qu'il faut pour chauffer.
Exactement, c'est vrai que pour la cuisson, il faut faire chauffer la cuve, il faut la faire bouillir pendant de nombreuses heures et ça consomme énormément de gaz, d'électricité ou de feu de bois, on peut aussi le faire au feu de bois. Alors que par fermentation, c'est la température ambiante qui permet cette fermentation. Donc c'est plus l'action du soleil qui agit, donc ça c'est intéressant.
On a l'impression que c'est une technique miracle, c'est... Non mais c'est peut-être difficile à mettre en œuvre, je sais pas, parce que si c'est pas si connu, il doit y avoir des raisons pour lesquelles c'est pas utilisé, pour l'industrie par exemple.
Alors on atteint le cœur du problème. Bon, l'eau de source peut être un élément, mais ça pourrait être adapté à l'industrie. Non, c'est surtout le temps de teinture qui est extrêmement long. Par cuisson, on plonge une fois, on fait un bain de teinture, donc on peut quasiment obtenir une couleur en une journée, alors que par fermentation, il faut compter pas loin de 2 mois pour obtenir le produit fini, c'est-à-dire qu'il y a 7 bains à une semaine d'intervalle. Donc 6 bains dans la cuve de fermentation et le 7e bain pour révéler la couleur. Alors c'est tout l'intérêt. Donc, pour fixer le pigment, en fait c'est un précipité entre un pH acide et un pH alcalin. Donc la toile de soie va tremper 6 bains dans le pH acide avec l'acidité, donc va faire proliférer les bactéries sous l'action de la chaleur du soleil. Ces bactéries vont manger la cellulose du bois et laisser le tanin en suspension dans l'eau. Donc c'est à ce moment-là que la soie va se charger des pigments. Et pour fixer ces pigments dans la soie, on va ensuite la plonger dans de l'eau de cendre, tout simplement. Donc des cendres de bois dissoutes dans l'eau. C'est la lessive de soude, en fait, que faisaient les lavandières jusqu'au siècle dernier. Et donc, quand on va tremper la soie, le pH va bouger, il va s'alcaliniser, et ça va définitivement fixer le tanin dans le tanin ou la couleur, parce qu'il n'y a pas que des plantes à tanin qu'on utilise, va définitivement fixer la couleur dans la toile. Et c'est une fixation qui est extrêmement durable. Donc c'est vraiment très long, que l'industrie ne recherche pas, ils veulent peut-être plus de la rentabilité à court terme. On a des nuances, à chaque toile on obtient des nuances, on va dire que par cuisson c'est plus une recette où on dose le pigment, la concentration, et on obtient un camailleux qui peut être assez fidèle à la demande d'un client. Sur la fermentation, on est vraiment dans de l'expérimentation. Canzone to farai, francamente si gonfla.
Voilà trop d'embocan pour poudre sous mien. Heureusement que les cono volent jamais, verrient pas l'eau sous l'air et son darda. Mon père est que malheur, aucun temps vergogne. Se spandi la carugna, l'ombaghi drag de segurese in catuna, iaggie de santo marto per la nareschiccia. A che lo crida di so, es la canzun de lodi. Veisi la passeggiado de tutti li fado. Una defila, mure de nervi per tutta la ciutà. Viema poco bandiero de din lu verminie. De che fa san e or de din lu burdinie. Senti Frédéric desviot et gelu que crazy ben que si sont devenu caru. Boy da quelles estras que tu es goni cruza. Da quel triste armado sera y palu surda. Ma pulida su sto tisenfan e fuego li fascisto francese usitan.
Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Oui, ce que j'aime bien en fait, c'est que la cuve en fermentation, elle est vivante, c'est des bactéries. Et donc tous les jours, on va la voir et puis on lui parle un peu comme un enfant. Voilà. Et il y a une forme de pellicule qui se forme que j'appelle la méduse. Et donc tous les jours, je vais parler à ma méduse et je l'entretiens. Voilà. Donc ça, c'est ma petite relation avec ma cuve de fermentation qui peut paraître comme un purin, une puanteur épouvantable pour le commun des mortels. Mais moi, je sais à son odeur, à sa texture, si mes bactéries vont bien ou si au contraire, elles vont mal, qu'elles sont en train de mourir.
Vous avez une relation privilégiée, en fait.
Oui, voilà, j'ai une relation privilégiée avec les méduses.
Sur la conception de ces vêtements, d'où ça vous vient?
C'est vrai que je suis très inspirée du vestiaire japonais. Et on a mis en place des modèles. Par exemple, on a un kimono qui est en lin, qui est doublé de soie. Donc vraiment d'inspiration japonaise. On a un pantalon très large qui s'inspire aussi du hakama, du pantalon de taekwondo. On a mis en place toute une ligne comme ça, très sobre et sophistiquée à la fois.
Inspiration principalement japonaise. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration?
La nature, en allant chercher les plantes.
Oui, la nature, elle est donnée par les matières. Hein, donc le lin a un aspect assez brut qui contraste avec l'aspect sophistiqué de la soie. On retrouve les couleurs donc, qui sont très naturelles. Donc c'est vrai que la nature, elle est vraiment visible sur les vêtements. Mais on voulait aussi que ce soit des vêtements assez classe, assez habillés, peut-être un petit peu aux antipodes de ce qu'on s'imagine comme ça, de vêtements bio. Et donc, on a aussi des inspirations très classiques. On fait des chemises, des vestes tailleurs, enfin tout le vestiaire classique aussi.
Vous, comment vous vivez le métier? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer?
C'est vrai qu'en créateur de vêtements, Il y a beaucoup de gens hein, qui créent des vêtements. Moi, ce qui me donne envie de continuer, c'est sur les secteurs déjà du tissu issu de l'agriculture biologique, on n'est pas énormément. Et sur la teinture végétale, on est très peu. C'est-à-dire qu'il y a plutôt des gens qui sont teinturiers. Il y en a d'autres qui sont couturiers. Mais on est très peu. Disons, dans le secteur, je pense être la seule à mélanger les deux. Et bah, ça permet une grande liberté créative, justement, de faire ses couleurs et en anticipant le vêtement qu'on a envie. Donc ça me permet vraiment d'accommoder le tissu, les couleurs à la coupe du vêtement. C'est une grande liberté. Et surtout, on peut pas... Enfin, moi, j'adore coudre. Mais passer ses journées devant sa machine à coudre, assis, alors qu'il fait super beau dehors, des fois c'est un peu frustrant. Et donc je sais que dans ma semaine, je vais avoir à ramasser mes fleurs, à récolter les écorces, et ça complète vraiment l'activité.
Est-ce que vous organisez des stages pour transmettre votre savoir ?
Alors, pas pour l'instant, mais c'est un projet à venir... notamment de créer un jardin de plantes tinctoriales qui puisse être visitable et puis organiser des stages et des formations. Pas pour cette année, mais peut-être dans les années qui suivent. C'est le projet en cours avec mon compagnon.
Votre communication, comment vous la faites ? J'ai vu sur le site internet que vous utilisiez comme mannequin des filles du coin, c'est assez intéressant.
Effectivement, l'idée au niveau de la communication, c'est de mettre en scène les vêtements dans des espaces naturels assez emblématiques des Cévennes, avec des jeunes hommes et des jeunes femmes issus du cru. C'est pas tellement que j'ai pas les moyens de me payer une mannequin, mais c'est que je trouve qu'il y a de très très belles personnes localement, donc autant faire comme ça. La communication, elle se fait via mon site internet, ingonature.com, et puis grâce aux médias locaux, comme Radio Bartas. Même si c'est difficile actuellement, avec la crise économique, et puis énormément de vêtements à bas prix commercialisés, c'est vrai qu'on a subi une très forte concurrence. Et d'un autre côté, il y a une vraie prise de conscience des gens, d'un retour aux vêtements de qualité, une prise de conscience aussi du danger des teintures chimiques pour l'homme et l'environnement, entre les allergies qu'on peut avoir et puis les pollutions dans les pays où les teintures se font. Et il commence à y avoir vraiment un réel regain d'intérêt, une réelle attention des gens par rapport à une autre manière de s'habiller et de consommer. Donc on a grand espoir là-dedans, sinon j'aurais peut-être pas continué, pas démarré du tout même.
C'était Main d'or dans les Bartas, une émission mensuelle à écouter le dimanche à 10h en semaine paire ou le vendredi à 18h en semaine impair ou sur www.radiobartas.net.